Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes à tirer du média suivant. La presse. Au programme, des balcons pour mieux vivre. Platonienne du nowhere. Et freiner les rongeurs ou ronger son frein. Bonne écoute.
Des balcons pour mieux vivre, un texte de Sarah Champagne, paru le 20 février dans La Presse. La pandémie a provoqué un vent de changement dans les règles de construction résidentielle de plusieurs grandes villes. La cible? Multiplier les balcons, terrasses, coins pelouses et espaces verts. Conscient de l'impact du confinement sur la santé de ses citoyens, les élus de Rennes, en France, ont réussi le tour de force d'obliger les architectes à inclure des balcons à leurs dessins. Une mesure s'alignant avec la nouvelle réalité du télétravail. Dorénavant, il est obligatoire de prévoir pour toute nouvelle construction un espace extérieur privatif d'au moins 4 mètres carrés. Les logements pour personnes âgées et ceux pour étudiants sont particulièrement visés. Une mesure qualifiée d'inédite, selon l'administration municipale de Rennes, dont la taille de la population se compare à celle de la ville de Québec. Le contexte sanitaire, le confinement, a joué dans notre décision, mais aussi le développement de modes de vie un peu différents, comme le télétravail. A résumé, Laurence Besserve, vice-présidente de Rennes Métropole responsable de l'aménagement et de l'habitat. À l'hôtel de ville, le responsable du service de presse, Lucas Offray, ajoute que les prévisions démographiques ne sont pas étrangères à ce virage. Selon les plus récentes données de Rennes, présentées lors d'une vaste consultation publique sur l'adoption d'un plan local d'urbanisme intercommunal, la population va passer de 460 000 à 533 000 résidents d'ici 2035, ce qui nécessitera la création de 65 000 nouveaux logements. Gym en plein air. En plein hiver, à l'angle des rues Robert-Bourassa et Ottawa, il est difficile d'imaginer à quoi ressemblera l'ambitieux complexe immobilier ODA Montréal, s'inspirant de la nature, s'inspirant de la forêt. Mais, au printemps prochain, les plans de construction avec des choix de finition boréale, laurentienne ou taïga commenceront à prendre forme. Mathieu Millette, architecte et vice-président du groupe COGIR, estime que le balcon a toujours été une exigence au Québec, ironiquement, même auprès des gens qui ne l'utilisent pas. Le balcon, c'est culturel, mais toute une réflexion s'est amorcée avec la pandémie, le confinement, avec les résidences pour personnes âgées, où les entrées et sorties ont été contrôlées. Ça va jusqu'au choix de matériaux antibactériens. Et il y a une plus grande sensibilité aux espaces extérieurs communs. On peut imaginer que des gyms extérieurs seront aménagés dans des types d'immeubles où l'on ne voyait que des gyms intérieurs, explique-t-il. Vous écoutez « Des balcons pour mieux vivre », un texte de Sarah Champagne, paru le 20 février dans La Presse. Plan d'urbanisme. Dans cette mouvance, les élus de la Ville de Montréal ont adopté un document intitulé « Projet de ville vers un plan d'urbanisme et de mobilité ». L'ébauche servira à dépoussiérer le plan d'urbanisme actuel, datant de 2004, pour définir l'avenir bâti de Montréal jusqu'en 2050. Les balcons feront partie de la réflexion, assure-t-on. Responsable de l'urbanisme et membre de l'exécutif, Robert Baudry explique que la population montréalaise souhaite, plus que jamais, des milieux de vie complets, avec espaces verts, parcs, commerces de proximité. Elle veut des logements abordables de qualité, adaptés aux différents besoins. On a tiré énormément de leçons de la pandémie, dit-il. On s'est rapproché. On a vu un fort retour du sentiment de communauté, de partage. Plus que jamais, la vie de quartier est devenue essentielle. On a vu la force de la mixité des usages en ville, comme le centre-ville habité, qui nous a permis de remonter la pente beaucoup plus rapidement que d'autres grandes métropoles. Tout ça a eu pour effet d'exacerber plein de besoins qui existaient avant la pandémie, mais qui sont devenus indispensables pour les citoyens. Montréal, Balconville. Passionné par l'environnement urbain, Philippe Lupien, architecte et professeur de l'École de design de l'Université du Québec à Montréal, fait remarquer que Montréal a longtemps été surnommé « Balconville ». C'est surtout en référence aux nombreux plexes conçus avec un petit escalier en colimaçon menant à un balcon, précise-t-il. Le spécialiste croit que Montréal est en train de passer à un autre niveau en matière de balcons et d'aménagement. On s'inspire de plus en plus de projets grandioses, comme le Bosco, à Milan, reconnu mondialement pour ses tours d'habitation entièrement végétalisées. On voit de plus en plus de loggias, balcons en partie couverts et encastrés, surtout en hauteur. Dans les nouveaux complexes, on installe de plus en plus de conduites de gaz naturel pour les relier au barbecue. Je crois qu'on verra de plus en plus de toitures en pente, des verrières, des écosystèmes intégrés aux immeubles, explique M. Lupien. À Montréal, plus de la moitié de la population vit dans des habitations de type logement, ajoute la directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal, Véronique Fournier. La dirigeante a justement assisté aux rencontres européennes de la participation publique qui se tenaient dans la ville de Rennes l'automne dernier. Elle estime que la construction de nouveaux immeubles doit être axée sur des milieux de vie favorables à la santé. Il ne faut pas négliger les initiatives pour combattre les îlots de chaleur. Il est impératif pour Montréal de voir plus large que le balcon, avec l'aménagement urbain et l'accès à des espaces verts, à des parcs, à une vie de quartier. On n'a pas un cadre bâti comparable à Rennes. Avec la pandémie, on a appris. On a ouvert des pistes cyclables, des parcs, des rues sont devenues piétonnes. Pourquoi ne pas élargir la réflexion pour atteindre 30% d'espace vert? Demande-t-elle. C'était « Des balcons pour mieux vivre », un texte de Sarah Champagne, paru le 20 février dans La Presse. Platonienne du Nowhere, un texte de Chantal Guy, paru le 12 février dans La Presse. Vous souvenez-vous quand Matricule 728 a fait une solide clé de bras à un pauvre musicien qui n'avait rien demandé, quelques mois seulement après avoir généreusement poivré des étudiants en 2012. Filmée à son insu, encore une fois, elle avait sorti son fiel d'une drôle de manière. Les gratteux de guitare, les hosties de carrés rouges, les artistes mangeux de marde, les platoniens du nowhere. Cette expression-là m'avait étonnée, assez pour que je ne l'oublie jamais. Il y avait, malgré tout, un peu de poésie à l'intérieur de cet être brutal. Platonien du nowhere. C'est comme ça que je me sens en allant habiter sur le plateau Mont-Royal depuis que mon chum a hérité de la maison de ses parents. J'ai passé toute ma vie dans le même secteur du quartier Centre-Sud. Ça ne me prend pas grand-chose pour me sentir en exil. Un chien dans le jus de quille de la fameuse clique du plateau? Sans blague, la fille du bas de la côte a l'impression de trahir son hood qu'elle n'a jamais voulu quitter. Mais c'est peut-être rendu au tour de mon amoureux de me raconter son quartier où il a vécu les 24 premières années de sa vie. Ça fait d'ailleurs 24 ans que nous sommes ensemble et que je lui casse les oreilles avec mes souvenirs d'enfance du Centre-Sud dans toutes nos promenades. C'est maintenant à moi de l'écouter et, après seulement quelques semaines, j'ai déjà l'impression qu'il radote. J'ai vraiment dû être pénible pendant son séjour d'un quart de siècle dans le bas de la côte. Tout aussi important qu'avoir un toit, il y a le quartier où l'on habite. La situation géographique et sociale joue carrément sur la valeur d'une maison. C'est peut-être ce qui me met le plus en colère dans le phénomène des rénovictions. Non seulement on fout des gens à la rue, mais on les déracine quand ils ne peuvent plus se loger où ils ont vécu toute leur vie. C'est d'une violence inouïe. Il y a une différence entre ceux qui s'installent dans un quartier parce qu'ils l'aiment vraiment et ceux qui ne font que faire une passe de cash déçu. Ce qui est très bien expliqué dans l'essai « Gentryville » de Marie Sterlin et Antoine Trussard que je suis en train de lire dans ma frénésie de lecture immobilière avec « L'habitude des ruines » de Marie-Hélène Voyer et « Avoir et se faire avoir, de la bis. Ma spécialité étant de trouver les bons livres pour les bonnes situations, ces trois titres sont devenus des livres de chevet. L'amoureux et moi, nous promenons le chien dans les ruelles du plateau en nous sentant un peu bourges et imposteurs. Nous passons notre temps à regarder s'il y a des maisons plus croches que la nôtre, juste pour nous rassurer. Et il en reste quand même pas mal dans ce coin-là de Montréal, éventré par endroits par les travaux et les démolitions. Le plateau demeure dans le top des quartiers les plus cools à Montréal, mais il est de moins en moins accessible. Ce n'est pas là que j'aurais cherché un appartement si j'avais eu à déménager. Mais quand j'avais 20 ans, c'était « the place to be ». Tout ce qu'il y avait de fun à Montréal s'y trouvait. Et tous mes amis vivaient en colocation dans de grands appartements pas chers. Mais est-ce qu'un quartier peut rester cool si les gens qui l'ont rendu cool ne peuvent plus y vivre? C'est ce que je vais vérifier dans les prochaines années. Vous écoutez Platonienne du Nowhere, un texte de Chantal Guy, paru le 12 février dans la presse. Je m'en vais peut-être au moment où mon centre-sud est sur le point de changer, comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps. La fermeture du magasin Archambault a ramené dans l'actualité le fait que le secteur de la place Émilie-Gamelin est un endroit miteux. Rien de nouveau. Depuis toujours, je lis dans les journaux que mon quartier est l'un des pires trous de Montréal et je trouve souvent qu'on exagère. Quand on a vécu là toute sa vie, on est habitué à cette faune. Même qu'on l'aime. Les enfants qui ont grandi dans Centre-Sud, Hochelaga ou Montréal-Nord n'ont pas le choix de développer ce qu'on appelle en anglais le « street smart », une intelligence de la rue. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits à Montréal où je pouvais jaser avec une vieille voisine qui prenait son café au dépanneur en robe de chambre. J'ai connu des périodes plus glauques à la fin des années 1980, quand les drogues injectables et les piqueries sont arrivées comme une bombe à fragmentation, entraînant une forte hausse de la prostitution de rue dans le coin. Il y avait des seringues partout. Des gens claquaient de surdoses dans les parcs. Aujourd'hui, il y a moins de seringues grâce à des organismes essentiels comme Spectre de rue, mais c'est aussi que les opioïdes en pilule sont devenus populaires avec autant de surdoses. À 15 ans, tous les matins quand j'attendais le bus pour me rendre à l'école secondaire, des hommes en voiture me demandaient des pipes. Et quand je revenais le soir de ma job d'étudiante, je prenais la rue Sainte-Catherine, car je pouvais toujours entrer dans un bar gay sans danger lorsqu'un prédateur me suivait. Le village gay a toujours été pour moi un safe space, malgré les problèmes du secteur. J'avoue qu'il m'arrive de me demander comment se sentent les touristes qui arrivent de l'aéroport par bus le soir dans ce coin-là. Si c'est la première image qu'ils ont de Montréal, certains doivent douter du choix de leur destination de voyage. Mais pour beaucoup d'habitués du quartier, les itinérants de la place Émilie-Gamelin sont peut-être le dernier rempart contre l'embourgeoisement. Je ne me fais aucune illusion. Avec toutes les transformations à venir dans ce secteur, on va en construire des condos et on va les tasser, les pauvres et les itinérants. C'est trop bien situé, près du pont Jacques-Cartier, du centre-ville et du métro Berry-UQAM qui va dans toutes les directions. On devine d'avance ce qui sera construit dans ce pâté d'immeubles à l'abandon devant la station et, connaissant mon quartier, je sais qu'il y aura de la résistance. C'est dans son ADN. Les jours de la fonte de la place Émilie-Gamelin sont comptés dans ce secteur, comme lorsqu'on a détruit le faubourg Amelas pour construire Radio-Canada. J'ai bien ri en voyant tout le boucan qu'ils ont fait avec la fermeture de l'ancienne tour. Ma mère, qui vivait avec ses grands-mères dans les maisons de chambre, a perdu son logis quand on a rasé le faubourg. La construction de la nouvelle maison de Radio-Canada était-elle un signe annonciateur? C'était Platonienne du Nowhere, un texte de Chantal Guy, paru le 12 février dans la presse. Freiner les rongeurs ou ronger son frein? Un texte de Boucard Diouf, paru le 18 février 2023 dans la presse. Les rats de Montréal font jaser. Selon certaines personnes, la ville grouille de rongeurs et il faudra frapper fort pour éviter que les rats ne se présentent aux prochaines élections municipales. L'ouverture des égouts pendant les chantiers, des problèmes de gestion des déchets et la piètre qualité des poisons utilisés pour les contrôler seraient des facteurs aggravants. Il y aurait plus de rats que de Montréalais. Les Anglo et les Franco ont donc beau se la disputer, la ville appartient davantage aux rats, aux écureuils, aux ratons laveurs, aux pigeons et aux goélands. Ces espèces sont formidablement adaptées à la présence humaine. Elles ont compris que pour survivre à l'omnipotent sapiens, mieux valait s'en approcher. Nos montagnes de déchets représentent pour elle des montagnes de ressources. Les ratons laveurs sont si bien adaptés à la vie urbaine qu'ils donnent des cours du soir au parc. Ils partagent avec les moufettes leurs nouvelles trouvailles pour ouvrir les bacs de compostage. Formés par les ratons laveurs, les écureuils ont aussi appris à éventrer les sacs à ordures et à disperser leur contenu sur les trottoirs. C'est le fameux cours de dissection. Ils ont aussi appris des goélands l'art de harceler les pique-niqueurs pour chaparder de quoi manger. Bref, les écureuils sont passés de casse-noisette à casse-couille. Mais contrairement aux rats, on les trouve très mignons, ce qui facilite leur acceptabilité urbaine. D'ailleurs, un ami disait qu'il est très facile de reconnaître les nouveaux arrivants français sur le plateau Mont-Royal. Ce sont les seuls qui trouvent les écureuils du parc La Fontaine encore assez exotiques pour les prendre en photo. Si on ne trouve pas une façon de les contrôler, je vous parie que dans quelques années, les écureuils de Montréal vont s'acheter de la bouffe en dérobant de l'argent directement dans les poches des contribuables. Ils seront alors en compétition avec les fonctionnaires du ministère du Revenu qui n'hésiteront pas à leur faire la peau. Revenons à l'indésirable rongeur qu'est le rat d'égout. On peut certainement diminuer les populations de rats, mais les éliminer est une entreprise impossible. Ils sont plus forts et plus résilients que nous. Le rat gris est aussi appelé surmulot ou rat d'égout. Mais pour nous, biologistes, il restera toujours Rattus norvegicus. Norvegicus, comme dans Norvège, vous avez bien lu. On l'associe à la Norvège, mais le territoire d'origine de ses ancêtres est plutôt la Sibérie, le nord-est de la Chine et le Japon. Pourquoi l'avoir nommé rat de Norvège? Par erreur. Le médecin et naturaliste britannique John Birkenhout, qui lui a donné ce nom, l'a croisé en 1769 dans le port d'Édimbourg, en Écosse. Puisque le rat voyageur descendait d'un bateau danois qui arrivait juste de la Norvège, le naturaliste est tombé dans la confusion. Bien avant la mondialisation des cultures, le surmulot s'est accroché à l'humain pour se répandre sur la planète. Partout où il débarque, il finit par s'adapter et prendre ses aises. Malheureusement, ces rongeurs sont aussi des vecteurs de maladies, tels que le typhus et la rage, et ils souillent nos aliments avec leur urine et leurs excréments. D'ailleurs, on a longtemps reproché à Rattus rattus, le rat noir, d'être responsable de l'épidémie de peste bubonique qui a décimé une bonne partie de l'Europe au Moyen Âge. Mais aujourd'hui, les scientifiques semblent innocenter partiellement ce rat originaire du Proche-Orient et dont certains pensent qu'il a profité des croisades pour immigrer en Europe. Mon défunt et brillant ami et collaborateur de l'émission « La nature selon Boucard », Harold Lévé, propriétaire des entreprises Maheu et spécialiste en gestion parasitaire, savait, plus que quiconque, raconter le monde extraordinaire des rats. Il m'a raconté qu'avec sa très mauvaise vision, le rat s'oriente la nuit en utilisant ses moustaches appelées des vibrisses. Les ultrasons et les odeurs sont au centre du mode de communication de ces animaux dont la paranoïa est un mode de survie. Placés devant une nouvelle ressource alimentaire, les rats feront preuve d'une grande prudence avant d'y toucher. Si un testeur manifeste des signes de détresse postprandiale après son repas, le reste de la colonie s'éloignera pour toujours de la boostifère mortifère. Selon Harold, le béton mou, le bois, le caoutchouc et même des feuilles d'aluminium peuvent entrer dans leur ventre sans leur tordre mortellement les boyaux. Quand on a les dents qui poussent continuellement, il faut ronger du coriace pour les user. Faut-il freiner les rongeurs ou ronger son frein? Rappelons que sans les rats dans nos villes, nos égouts seraient constamment bouchés, disent des scientifiques. D'après le Fonds mondial pour la nature, WWF, seulement à Paris, les rats consommeraient environ 800 tonnes d'ordures par jour. Même si on aime les détester, il faut quand même les remercier pour ce travail, mais aussi d'avoir donné leur corps à notre science et permis un spectaculaire bond à la médecine. Retenons également que le rat est un animal social, intelligent, voyageur, opportuniste, grégaire, prolifique, omnivore, qui vit en groupe hiérarchisé et présente une grande capacité d'adaptation. Ça ne vous rappelle pas une autre espèce? Un grand bipède qui abonde sur l'île de Montréal? Deux charges de même signe se repoussent. C'est ce principe enchâssé dans la loi de Coulomb, bien connu de tous ceux qui ont fait un peu de physique. Pendant que Sapiens rage, le rat se dilate la rate. C'était « Freiner les rongeurs ou ronger son frein? » Un texte de Boucard Diouf, paru le 18 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.